une autre histoire.
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur.
Une autre histoire, une chronique proposée par Robert Martin.
Le 17 avril 1961, voilà exactement 62 ans, une poignée d'opposants à Fidel Castro débarque dans la baie des Cochons, à l'ouest de l'île de Cuba. Armés par la CIA, ils se donnent pour objectif de renverser le régime castriste quelques mois après que celui-ci se soit rangé dans le camp soviétique. Mais les partisans de Castro, qui ont été informés du débarquement, accueillent celui-ci avec des armes lourdes. La tentative échoue piteusement et les assaillants se font tuer sur la plage sous la clarté de la pleine lune. Après le départ de Batista et l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir en 1959, les relations entre Cuba et les États-Unis se détériorent rapidement. La politique d'expropriation des terres du gouvernement castriste et son rapprochement avec l'URSS inquiètent le gouvernement américain qui adopte des représailles commerciales et rompt ses relations diplomatiques avec Cuba dès janvier 1961. La CIA décide alors de lancer une opération militaire pour changer la donne chez ce turbulent voisin distant de quelques kilomètres de ses côtes. Sur le papier, l'opération était simple. Il s'agissait d'envoyer des volontaires sur l'île, en grande partie des exilés cubains, et d'établir une tête de pont destinée à installer un gouvernement provisoire à Cuba. Une fois ce gouvernement mis en place, l'administration américaine aurait pu y apporter son soutien et établir un nouveau régime, celui-ci favorable aux intérêts des États-Unis. À l'aide d'une flotte composée de navires militaires américains et de navires de commerce, loués pour l'occasion, le régiment prit les voiles pour Cuba depuis l'Amérique centrale. Il transportait suffisamment de munitions et de matériel pour assurer une opération sur 30 jours. La troupe d'exilés cubains jouissait d'un autre avantage majeur, 16 bombardiers B-26 capables de sillonner le ciel et de marteler les forces de Castro leur viendraient en renfort. 15 avril 1961, deux jours avant le débarquement, les bombardiers américains peints sous les couleurs cubaines et pilotés par les exilés cubains partent du Nicaragua pour Cuba. Ils attaquent des bases aériennes, dont celle de la Havane. Et alors que les Américains pensent avoir détruit toute l'aviation cubaine, il reste cependant quelques avions en état de marche sur l'île. Et cette erreur coûtera cher aux anticastristes et aux Américains. Deux jours plus tard, le matin du 17 avril, la brigade 2506, composée de 1500 exilés cubains, débarque sur la baie des Cochons, mais se heurte à la résistance des milices cubaines et de la population. Résistance sous-estimée par la CIA. Et les choses dérapent rapidement. Alors qu'un navire de transport de troupes entrait dans la baie, il s'échoua sur un banc de sable après avoir essuyé les tirs des troupes cubaines qui répondent avec vivacité. Le débarquement des troupes fut ralenti aussi par la présence inattendue d'un récif corallien, initialement identifié comme des algues sur les photos aériennes. Un bataillon entier dut nager pour sauver sa peau en laissant derrière lui des armes lourdes et des munitions. Malgré l'entraînement reçu par des militaires américains, la dizaine d'avions militaires cubains met en déroute les mercenaires et la plupart sont faits prisonniers. Cette opération sans soutien populaire à Cuba et mal préparée, tactiquement, est un échec complet. Bilan, 114 morts et 1189 prisonniers parmi les anticastristes.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara.
Cet échec s'explique en grande partie par une succession de ratages lors de sa préparation. Tout d'abord en 1960, le célèbre journal New York Times fait fuiter des informations essentielles sur l'existence d'un camp d'entraînement de forces anticastristes situé au Guatemala. Le gouvernement de Fidel Castro, informé par ailleurs par des espions soviétiques et cubains, est donc alerté de la préparation d'un débarquement prévu pour avril 1961. Autre bévue considérable dans la préparation de l'opération, le président Kennedy, héritant de cette initiative militaire, conçue par Eisenhower, change le lieu du débarquement sans pour autant modifier la solution de repli. Cette absence de coordination crée une situation ubuesque. En cas de débâcle, les troupes sont ainsi censées rejoindre à pied un refuge dans un massif montagneux situé à 130 km du lieu de débarquement. Enfin, l'échec retentissant de cette opération s'explique en grande partie par le manque de fiabilité des informations transmises à l'administration américaine les années précédant le débarquement. Alors que le régime castriste est très largement soutenu par la population, les rapports sur lesquels se base la CIA font état d'une vive contestation populaire. Ces rapports émanent d'une petite minorité qui confond la réalité avec ses propres souhaits, ses propres désirs, ses propres besoins. Car cette minorité cubaine, composée de propriétaires enrichis sous la dictature de Batista, avait en effet grandement intérêt à ce que le régime castriste soit renversé par les forces américaines pour retrouver leur situation antérieure. La victoire militaire cubaine a soudé son peuple autour de Fidel Castro. Le régime communiste s'est allié ouvertement avec l'URSS. Les États-Unis ont été humiliés au niveau international et à Washington, la CIA a perdu de son influence. Kennedy s'en veut officiellement d'avoir été mal conseillé par les militaires et la CIA. Dans les archives américaines, on évoque cet épisode en le qualifiant d'échec parfait. Et contre toute attente, Kennedy fait publiquement amende honorable et assume à la radio la pleine responsabilité de cet échec. Quelques mois plus tard, Kennedy négocie la libération des prisonniers contre 53 millions de dollars en nourriture et en médicaments. Cette opération a terni la réputation du nouveau président américain entré en fonction en janvier 1961 et il sortira affaibli de cette crise. Quant à Fidel Castro, il gagne en crédit grâce à cet immense succès et se présente devant le tiers-monde comme le meilleur opposant à l'impérialisme américain. Pour l'anecdote, sachez qu'il n'y a pas de cochon dans la baie des cochons. En cubain, los cochinos sont le nom des sufflamins verts, de jolis poissons mauves et oranges qui nagent dans ces eaux. En octobre 1962, les leçons apprises lors de cet épisode permettront à la crise des missiles nucléaires russes pointés vers les États-Unis et installés à Cuba de ne pas se terminer en cataclysme. Mais c'est une autre histoire.
Une autre histoire ? Notre histoire.